Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
19h, ravi de vous retrouver face à l'info. Comment allez-vous? En pleine forme, nous aussi, merci.
On passe au sujet. Allez.
Ça y est, on a rigolé, on a détendu voilà, la mâchoire, tout va bien, on est en forme. Simon Guilin, l'info,
bonsoir.
Ça va?
Ça va très bien. Bonsoir, chère Christine, et bonsoir à tous. Notre devoir est d'élargir les sanctions contre l'Iran, une déclaration du président de la République depuis Bruxelles, où un Conseil européen extraordinaire se tient aujourd'hui et demain au sujet des tensions au Moyen-Orient. Des sanctions qui viseront également ceux qui aident à faire des missiles et des drones, a ajouté le chef de l'État. Les opérations antidrogue PlaceNet XXL ont permis l'interpellation de 3814 personnes. Une annonce aujourd'hui du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. 600 individus ont été présentés à un juge et près de 200 ont été incarcérés. Et enfin, le plus grand squat de France a été évacué très tôt ce matin. Situé à Vitry-sur-Seine, il a abrité jusqu'à 450 migrants. Près de 250 policiers ont été mobilisés pour procéder à cette opération. Et à 100 jours maintenant des JO, eh bien les opérations d'évacuation se multiplient en Ile-de-France, chère Christine.
Merci beaucoup Simon Guilin pour ces infos du soir. Et au sommaire de Face à l'info ce soir, la conférence de Jean-Luc Mélenchon a été annulée à Lille pour des raisons de tension internationale. LFI crie à la censure. Que comprendre? Que comprendre au lendemain de l'annulation de la conférence des nationalistes européens à Bruxelles, là aussi où la censure a été criée? La conférence a pu reprendre son cours aujourd'hui, mais on se demandera ce soir qui est cet homme, celui qui a fait vaciller la démocratie belge hier, ce bourgmestre d'origine turque qui avait été rejeté par le Parti socialiste pour ses accointances avec les néofascistes turcs. Qui est Emir Kir? L'édito de Mathieu Bocoté. Alors qu'un journaliste de Libération a lancé un appel à témoins sur les réseaux sociaux pour trouver de jeunes diplômés, noirs, arabes ou musulmans, qui veulent fuir la France à cause des discriminations dans la société ou au travail, on verra qu'il n'a pas obtenu les réponses attendues. Certains ont déclaré par exemple vouloir quitter la France à cause de la pression communautaire et religieuse insoutenable pour les femmes. Nous analyserons comment cette recherche de témoignages de Libération en dit long quant au rapport d'une certaine gauche à la réalité de l'immigration, l'analyse de Guillaume Bigot. C'est un véritable déchaînement de violence qui a eu lieu à Grande-Synthe, dans le Nord. Une barbarie sans nom. Un jeune homme de 23 ans décédé de ses blessures après une violente agression lundi soir. Tué à coups de hache et de batte alors qu'il aurait refusé de donner son téléphone portable. Comment et pourquoi cette France méconnaissable dans l'horreur? De la même façon à Marseille, une directrice d'école a été rouée de coups par la sœur d'un élève dont le frère n'avait pas pu participer à une sortie. La victime a été traitée de raciste avant d'être agressée. Ne nous habituons pas et regardons de quoi cette sauvagerie est le nom, le regard de Marc Menon. Faut-il revoir les attributions des logements sociaux? Le texte qui doit être présenté en Conseil des ministres début mai prévoit notamment que les locataires du parc social les plus aisés devront quitter leur logement. Il serait également question de réserver les logements sociaux à des surveillants pénitentiaires, des infirmiers, des enseignants, des policiers. Jordan Bardella, de son côté, souhaite réserver les HLM aux Français. Le décryptage de Charlotte Dornelas. Et puis alors qu'une journaliste de Livre Noir a infiltré des collectifs de gauche, elle révèle des méthodes assez surprenantes sur lesquelles nous allons nous attarder ce soir. C'est le collectif de gauche qui fiche des clandestins, puis les exploite en les faisant pointer en manifestation. Sous couvert d'humanisme, l'exploitation, l'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur avec nos mousquetaires. Guillaume Bigot est là ce soir et Charlotte Dornelas a sorti sa plus jolie robe. C'est parti. Non, non, elle n'a pas mis la robe pour vous, que ça soit clair. C'est pas parce que
vous êtes là. Mais laissez-moi dans mes illusions.
Bon, vous êtes en forme, ravie de vous retrouver.
Très.
Charlotte, Marc.
Oui, oui, oui.
Merci beaucoup.
J'ai épuisé mon temps de parole. Bonne soirée, merci, au revoir.
Mais ça fait trois mois qu'il est épuisé pour l'année.
Marc, on a beaucoup de choses à voir avec vous, hein, puisque tout ce qui s'est passé, justement, la barbarie qu'il y a eu à Grande-Synthe, on va en parler avec vous dans un instant. D'abord, Mathieu Bocoté, sa conférence de Jean-Luc Mélenchon donc, qui a été annulée. À l'Université de Lille, demain, en présence de Jean-Luc Mélenchon et de la candidate aux européennes, Rima Hassan, les Insoumis dénoncent une censure. Ma question, c'est en quoi est-ce une atteinte à la liberté d'expression? Et si vous permettez, mon cher Mathieu, je fais une petite surprise.
Mais allez-y.
J'aime bien, il y a une palpitation. Non, je rigole. Et pour reprendre vos mots d'hier soir, c'est très intéressant parce qu'on est complètement dans la continuité. Vous disiez la liberté, les derniers mots de cette émission, la liberté d'expression, c'est bon pour tout le monde, même pour les gens qu'on n'aime pas. Même pour les gens de la France insoumise. Là, est-ce une censure? Parce qu'il crie à la censure.
Mais bien évidemment que c'est une censure. Et c'est une censure illégitime. Et c'est une censure scandaleuse. Donc moi, je pense que je ne surprendrai personne en disant que je ne me sens peu d'affinité avec la France insoumise. Mais je considère que l'appel à la censure porté par à peu près tous les partis depuis quelques jours était scandaleux. Mais là, ensuite, la France insoumise nous dit... Nous sommes victimes de censure, vive la liberté d'expression. Je suis d'accord, à une condition, qu'ils décident d'appliquer le même raisonnement quand d'autres seront censurés. Le problème, c'est que la France insoumise, normalement, est dans le parti des censeurs. Normalement, la France insoumise est particulièrement zélée quand il est temps de censurer quelqu'un. Là, ça leur tombe dessus et ils disent liberté d'expression. Je les invite à comprendre que ce qu'ils subissent aujourd'hui, ils l'infligent souvent aux autres. Quant à moi, je défends leur liberté d'expression, même ce qu'ils disent, franchement, ça m'exaspère.
Charles, je vous fais réagir avant de continuer avec Mathieu.
Non mais je pense exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il y a en fait l'avantage d'un principe, c'est qu'il ne varie pas en fonction des circonstances. C'est la différence avec des valeurs. On parle beaucoup de valeurs. Il vaut mieux avoir des principes parfois. Et les principes, c'est parfois difficile à appliquer parce que en effet, quand on a quelqu'un dont les propos sont particulièrement gênants, on préférerait ne pas entendre ses propos. Mais c'est précisément là qu'il faut se souvenir que la liberté se situe aussi là. Mais en effet, j'aurais préféré l'inverse, en fait, que le mouvement qui allait toucher la France insoumise permette de comprendre que la censure est exaspérante en toute situation. Malheureusement, la tendance va plutôt à l'inverse.
Alors Mathieu, on continue avec vous parce qu'on a beaucoup parlé de la tentative de censure du colloque des nationaux conservateurs hier en Belgique, qui a d'ailleurs entre-temps été autorisé. Le Conseil d'État a désavoué Emir Kir, le bourgmestre responsable de l'interdiction. Et c'est à cet émir que nous allons nous intéresser maintenant dans la mesure où il semble représenter en partie l'avenir de l'Europe. Qui est-il? Je pense que son profil en dit long. Sur ce qui s'est passé hier.
On pourrait résumer le profil en disant que c'est un homme qui incarne le dévoiement communautariste du socialisme européen et qui sait s'emparer de la logique de l'antifascisme pour faire le procès des ennemis de l'islamisme. Alors, je vais inscrire ensuite ce portrait dans une perspective plus large, mais nous sommes devant en fait, celui qui incarne bien la mutation d'une partie de la gauche européenne aujourd'hui. Alors, un petit rappel en passant, effectivement, le colloque finalement a été autorisé. Donc, l'interdiction a été soulevée. Ma petite hypothèse là-dessus, c'est parce que la Belgique a eu honte, tout simplement. Normalement, parce que l'interdiction, il faut comprendre, là, première interdiction, deuxième interdiction par les bourgmestres, la troisième fois, donc on empêchait la tenue de l'événement, là, ça s'est transformé en événement international. Donc, la classe politique belge a été obligée pour un temps, de manière exceptionnelle, de soulever le cordon sanitaire. Mais si on n'avait pas vu les images qu'on a vues, c'est-à-dire une descente de police pour interdire un rassemblement intellectuel, une telle interdiction aurait été maintenue. Donc, ce qui a fait bouger la classe politique belge dans les circonstances, ce n'est pas le courage, c'est la honte des images qui ont circulé et qui nous ont rappelé que la Belgique francophone est une forme de Transnistrie du monde occidental. Une fois que c'est dit, il faut comprendre le contexte de ce qu'est la Belgique pour comprendre qui est Emir Kir.
C'est ça.
Alors, la Belgique, disons-le très honnêtement, c'est deux pays dans un. C'est-à-dire, il y a les Flamands, il y a les Wallons, ils n'ont à peu près rien en commun. Et il y a une chose par ailleurs qui les tient ensemble malgré eux, c'est Bruxelles. Bruxelles, qui est à la fois la capitale de l'Europe, ça on est au courant, mais qui est aussi la capitale de l'islamisme européen. Ah, ça c'est plus compliqué. Par capitale de l'islamisme européen, c'est vrai en deux temps. Le premier élément, c'est la pénétration de Bruxelles, au sens du Bruxelles politique, par les frères musulmans. On connaît les travaux de Florence Bergeau-Blaclair sur ça. On connaît le combat de François-Xavier Bellamy, qui a lutté contre la puissance de l'islamisme à l'intérieur des institutions européennes. Donc, Bruxelles est une ville islamisée politiquement par ces institutions européennes. Et c'est aussi une ville qui est culturellement islamisée, à bien des égards. Allez faire un tour à Bruxelles et vous comprenez ce que veut dire un basculement démographique. Donc, c'est une ville qui, culturellement, a basculé. C'est peut-être encore géographiquement l'Europe, mais ce n'est plus culturellement l'Europe. Quelques données, soit dit en passant. À Bruxelles, aujourd'hui, 61% de la population est d'origine extra-européenne. Deuxième élément, au niveau du pays, 52% des Belges sont d'origine belge de 0 à 17 ans. Donc, 0 à 17 ans, 52% des Belges sont d'origine belge. Chez les plus de 65 ans, c'est 86%. Donc, vous voyez qu'il y a un basculement. Il doit avoir un nom pour nommer ça, mais il ne me vient pas à l'esprit. Donc, il y a un basculement démographique significatif en Belgique aujourd'hui. Et ce n'est pas un basculement dans le vide. C'est un islamisme conquérant qui réussit véritablement à faire sa loi. Parce que ça a des effets politiques, tout ça. Vous changez de démographie, vous changez de politique. Tous les partis politiques à l'intérieur du fameux cordon sanitaire sont dans la logique diversitaire. Même la pseudo-droite et leur vraie gauche. Leur pseudo-droite, c'est le MR, notamment, le parti pseudo-droite francophone de Georges-Louis Bouchez, qui se félicitait tout récemment en fonction de prochaines élections. Il dit que la moitié de la liste est composée de figures issues de la diversité. Très bien, mais est-ce que le premier critère, c'est la moitié de la liste est composée ou la totalité de la liste est composée de gens de qualité, quelle que soit leur origine? Non. Le communautarisme est pris en charge par les partis. Il y en est de même pour les socialistes. Et là, j'en arrive donc à Emir Kir, qui est ce personnage tout à fait singulier parce que, donc, il a fait d'abord carrière par le socialisme et il a rompu avec les socialistes. On aurait pu croire, la rumeur voulait qu'un jour il puisse rompre avec eux sur la question du génocide arménien. Parce qu'il le conteste. Et ça aurait pu entraîner son expulsion du Parti socialiste, mais il a réussi à se maintenir malgré tout. Certains l'accusaient même de négationnisme, ce qu'il contestait. Il dit non, c'est une autre version de l'histoire. Il était très choqué quand on l'accusait de négationnisme. Mais c'est un terme qui revient souvent. Il parlait du pseudo-génocide arménien. Deuxième élément, pourquoi a-t-il quitté le Parti socialiste? Parce que, vous l'avez dit très justement, il était en lien avec des gens qu'on associe à la mouvance des loups gris, donc on pourrait dire l'aile néo-fasciste du régime d'Erdogan. C'est, on pourrait utiliser l'autre terme, mais disons que c'est l'aile extrême du régime d'Erdogan. Et parce qu'il est en lien avec ça, il a subi le cordon sanitaire en Belgique. Donc on a dit, vous êtes en lien avec l'extrême droite en Turquie, dès lors on rompt les liens avec vous. Mais est-ce qu'il a perdu sa carrière politique? Est-ce qu'il a sacrifié sa carrière politique ainsi? Pas du tout. Parce que dans son territoire, il y a une très puissante communauté turque. Et c'est un homme qui, jouant la carte du communautarisme à plein, est parvenu à se maintenir grâce aux appuis communautaires turcs qu'il avait dans son coin de pays. Alors on en arrive à la dimension politique de tout ça. Que s'est-il passé hier? On était devant un homme qui a transformé en fait sa commune en baronnie ethnico-religieuse. C'est-à-dire, c'est un territoire qui disait, il se dérobe à la loi nationale, il se dérobe à l'ensemble du pays. Désormais, une culture nouvelle s'impose ici et on va pratiquer la censure des courants qu'on ne veut pas entendre. Les fameux fascistes dont on parlait hier, les fascistes étant globalement les nationaux conservateurs européens pour lui. Et ce qui est assez intéressant avec ça, c'est que finalement, on voit que la Belgique a un côté canadien là-dessus. C'est que le droit s'adapte à la multiplication des communautarismes. Le droit, parenthèse, juste pour le plaisir de dire, Justin Trudeau, hier, a annoncé au Canada, juste comme ça, que dans le budget fédéral, on va désormais, le gouvernement fédéral va chercher à développer des hypothèques halal pour permettre aux musulmans d'avoir accès à la propriété. Fin de la parenthèse. Communautarisme à la canadienne. Mais la Belgique, de ce point de vue, ressemble un peu au Canada. On multiplie les accommodements dits raisonnables pour permettre au communautarisme de s'exprimer. Alors, on me dira, ah, mais c'est belge, c'est pas la France, c'est pas la... Et là, on peut se demander, mais les municipalités contrôlées aujourd'hui par les écolos en France, est-ce qu'ils n'ont pas tendance, quelquefois, à entrer dans ce qu'on pourrait appeler une logique belge? Est-ce qu'ils n'ont pas tendance à basculer dans cette logique lorsqu'ils acceptent, par exemple, le burkini dans les piscines, lorsqu'ils condamnent tous les symboles chrétiens? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Est-ce que les municipalités françaises dirigées par les écolos n'annoncent pas quelque chose comme le destin belge de la France?
On le disait hier, Mathieu Bock-Côté, Emir Kir a décidé d'interdire donc cet événement à la fois pour des raisons idéologiques et de sécurité. Qu'en est-il aujourd'hui du coup ?
Alors c'est encore mieux. Quand on a pu lire le texte qui a justifié l'interdiction,
oui.
Il nous dit, c'est lunaire en fait, il nous dit, ben voilà pourquoi on va l'interdire. Il présente le colloque, il dit, c'est le national-conservatisme. Donc, c'est pas seulement des conservateurs sur le plan éthique, qui auraient une morale plus traditionnelle. Ils sont pour la défense de la souveraineté des nations, pour la défense des identités des nations. Ce qui favorise, dit-il, le développement d'une attitude eurosceptique. Et une attitude eurosceptique, est-ce qu'on peut vraiment permettre ça dans une démocratie? Aucun non. Guillaume, soudainement, s'inquiète. Dans le même état d'esprit, il nous dit, il y aura dans ce mouvement-là donc de la droite nationaliste, des conservateurs, là, il prend tous les termes pour étiqueter de sale manière les gens qui étaient présents. Il nous dit, les discours qu'on entend dans la présence même de certains de cet événement, l'événement lui-même a un côté provocateur et discriminatoire. Et dès lors, il suscite des réactions négatives, qui sont les fameuses réactions liées à la peur de la sécurité publique qui ont été mobilisées hier. Donc, qu'est-ce qu'on nous a dit finalement? C'est les attitudes eurosceptiques et le simple fait que le conservatisme s'exprime, qui était en lui-même discriminatoire, qui était en lui-même poussé à la honte, poussé à la gêne, et dès lors justifiait la censure. Ça nous rappelle ce qu'on dit souvent sur ce plateau, que pour une certaine gauche, le simple fait de critiquer le progressisme, c'est déjà ça, un propos haineux. Et on a vu ce dont il était question ici. Et qu'est-ce qu'on voit avec ce Emir Kir? Il y a du génie politique chez lui. C'est qu'il instrumentalise l'antifascisme, que c'est le langage des socialistes, il instrumentalise l'antifascisme pour ensuite lutter contre ceux qui critiquent l'islamisme. Donc l'antifascisme européen est mobilisé pour lutter contre ceux qui luttent contre le totalitarisme islamiste d'aujourd'hui, et il prend la municipalité qui était la sienne comme point d'appui d'une conquête islamiste. À tout le moins, c'est le propos de plusieurs qui s'inquiètent justement de ce pouvoir croissant de l'islamisme en Belgique.
Alors, on parle beaucoup d'Emir Kir. Mathieu, ne sert-il pas ici de bouc émissaire? Le problème n'est-il pas plus profond?
Et vous avez raison de le dire. Emir Kir, c'est un problème parce qu'il incarne quelque chose. La politique, c'est fait par des hommes, par des femmes, donc on le nomme. Mais ce que je vois, c'est que tout le système belge, en ce moment, c'est comme caché derrière lui en disant « Oh là là, c'est un dérapage, c'est pas notre faute, c'est lui ». Alors que dans les faits, c'est tout le système politique belge qui participe à cette logique. Et je dis le système politique belge, mais plus largement le système politique en partie européen. Et il n'est pas interdit de penser qu'en France même, cette logique de censure existe. Je vous donne deux ou trois exemples. Au moment de la présidentielle, rappelez-vous simplement, lorsqu'on disait « il est très bien si Zemmour et Le Pen n'ont pas leur signature », ça va nous éviter d'avoir des candidats populistes à la présidentielle. Alors qu'on savait qu'ils faisaient au moins, à ce moment-là, dans les sondages, les deux ensemble, quelque chose comme 35-40%.
C'était quelqu'un de très bien placé dans les institutions qui disaient ça.
Ah, mais oui, c'était facile. Donc, ils se réjouissaient à l'idée qu'un candidat soutenu par des millions de personnes ne puisse pas accéder au jeu politique. Est-ce que ce n'est pas une forme de cordon sanitaire à la française dans les circonstances? Je note, soit dit en passant, revenant sur les événements. Libération, ce journal de référence qui défend la liberté d'expression à ce qu'on dit, s'intéresse à ce qui s'est passé en Belgique. Et le titre de l'article est intéressant. L'intolérance Zemmour, victime d'intolérance. Ça, c'est la présentation de Libé. Et on sait que d'ailleurs Zemmour a dit hier, c'est un mélange de califat et de dictature. Et là, pour Libé, il dit, ah ben, c'est, ben, il a tapé sur les musulmans. Non, sur des islamistes, pas sur des musulmans, sur des islamistes. Mais quoi qu'il en soit, la réponse de Libé est intéressante. Je le rappelle, l'intolérance Zemmour, victime d'intolérance. Ce qui nous renvoie à cette question éternelle, faut-il être tolérant avec les intolérants? La réponse théorisée par Karl Popper au siècle dernier est non. Libé est d'accord avec la censure d'hier. Libé considère qu'il était normal que les, si je comprends bien la réponse, que les policiers fassent une descente pour interdire un colloque politique à Bruxelles. Libé, en France. Donc je devine que pour Libé, des gens de Libé, à tout le moins, souhaiteraient l'application d'une telle logique et de tels interdits en France. C'est quand même important de le noter. Et d'ailleurs, parlant de censure, une dernière réflexion. Il y a un livre dont on parle beaucoup ces temps-ci, de Mouto et Stern, c'est le livre Transmania. C'est le livre Transmania, qui est un livre qui est une enquête sur l'idéologie transgenre qui, aujourd'hui, a une très grande portée sur les jeunes générations. Et les deux se sont lancés un livre-enquête critique à l'endroit de l'idéologie transgenre. Radicale. Eh bien, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Deux figures importantes de la mairie de Paris, David Béliard et Emmanuel Grégoire, ont appelé à la censure de la publicité de ce livre. Il y avait une affiche où on que dit David Béliard. Oui, pourquoi en finir avec la pub? Cette publicité pour un bouquin transphobe participe à la normalisation de la haine envers les personnes trans, une idéologie mortifère à milieu des valeurs de Paris. Cette publicité doit être tirée. La mairie de Paris plaide pour la censure d'une publicité. À ce que j'en sais, on était encore dans une société libre, mais c'est pas l'avis de M. Béliard. Et Emmanuel Grégoire, premier adjoint, la transphobie est un délit. La haine de l'autre n'est pas à sa place dans notre ville. Paris n'est pas la vitrine de cette haine crasse. Je vais saisir JC Déco pour demander le retrait de cette publicité. Appel à la censure en France aujourd'hui. Alors, je me pose la question avec quelques tristesses. Est-ce que la France aujourd'hui n'est pas déjà un peu belge?
Je ne sais pas si c'est un ange qui passe.
Non, c'est une formule un peu vacharde, en fait.
Non, on la digère.
On va essayer.
Merci beaucoup Mathieu pour cette brillante analyse. On va continuer avec vous, mon cher Guillaume, un petit fil conducteur entre vous deux. Libération, on va regarder, parce que ça en dit long. Beaucoup d'internautes s'interrogent aujourd'hui sur l'attitude d'un journaliste du quotidien Libération qui postait hier sur un X un appel à témoins. Il sollicitait pour un article des jeunes diplômés noirs, arabes, musulmans qui voulaient quitter la France à la suite de discriminations qu'ils auraient subies. Alors le message est aujourd'hui effacé, mais cette histoire est pleine de leçons en fait, puisqu'il n'a pas eu les réponses qu'il attendait. Que s'est-il passé?
On peut le résumer d'une formule et d'une image très connue, c'est l'arroseur arrosé en fait, dans l'histoire du cinéma, c'est très simple. J'essaie de vous expliquer ça. D'abord, déjà, comme dirait les profs de philo, il y a un énorme présupposé dans le sujet que voulait ce journaliste de Libé.
Prof de philo.
Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, quand on pose la question « Je cherche des personnes noires ou arabes musulmanes qui envisagent de quitter la France en raison des discriminations dans la société », parce que ces discriminations, non seulement elles existent, elles sont massives, elles poussent des tas de gens à s'expatrier, c'est sûr. En fait, rien n'est neutre dans cette affaire. Bien sûr que le libellé de cette question n'est pas neutre. Bien sûr que Libération, on le sait, n'est pas neutre, sans doute. Bien sûr que le journaliste lui-même n'est pas neutre. Il s'appelle Théo Mourabi. Quand on jette un œil sur son compte X, on lit la phrase suivante qui le présente, hein, qui résume, c'est « un œil sur l'extrême droite ». Voilà, ouvrez et fermez les guillemets, donc bien sûr que c'est pas neutre. La méthode qu'il utilise, elle n'est pas neutre non plus, elle est même extrêmement discutable, parce que c'est pas du tout essayer d'objectiver cette discrimination, ce qu'il en est de cette discrimination, c'est vrai, c'est faux. Non, part du principe que c'est massif, que ça existe, et il va pas chercher des instruments statistiques, non, il va, comme ça, partir à la pêche, à des témoignages, disons, d'abord individuels, et évidemment extrêmement impressionnistes. Et donc on peut dire que c'est une enquête, qui est une enquête... C'est-à-dire CQFD, c'est-à-dire une enquête, ce qu'il fallait démontrer. C'est-à-dire qu'on part d'un principe, on part d'un présupposé, voire d'un préjugé, et l'enquête consiste à piocher quelques témoignages pour étayer et pour nourrir le présupposé de départ. C'est vous dire la puissance intellectuelle, la solidité conceptuelle
du dispositif. On ne parle pas du réel, en tout cas.
Ça n'a pas duré. C'était une enquête biodégradable, puisqu'elle a démarré à 15h31 la veille et qu'elle a disparu aujourd'hui. Bon. Alors, pourquoi? Parce que l'appel à témoins, en fait, a bien marché, au-delà peut-être des espoirs de l'intéressé, parce que le journaliste, effectivement, a reçu pas mal de témoignages, de jeunes diplômés issus de la diversité, victimes de discrimination. Par exemple, Soraya, qui dit « J'ai quitté la France il y a 7 ans à cause de pression familiale venant d'un beau-frère venu d'Algérie. Kaina, je suis musulmane non pratiquante, je songe à quitter la France car je ne peux plus boire un verre de vin, une terrasse de café. » Donc la discrimination, elle ne vient pas de ceux auxquels s'attendait, j'imagine, le journaliste de Libération. Alors peut-être que ces témoignages, ce sont des faux comptes de militants et d'identitaires qui témoignent à la place d'eux, c'est tout à fait possible. Mais si les témoignages avaient été en faveur d'ailleurs de l'hypothèse du journaliste, c'est-à-dire s'il y avait eu beaucoup de témoignages pour dire oui, je suis victime de discrimination en tant que musulman, en tant que musulmane, ça aurait pu être aussi des faux comptes islamistes. Donc on voit bien que la méthode était extrêmement bancale. De toute façon, dès le départ, c'est pas une enquête très sérieuse de lancer comme ça des témoignages à la pêche sur Internet. Et de toute façon, s'il avait été vraiment journaliste et curieux, il aurait investigué pour savoir si ses réponses étaient des vraies et des fausses réponses. Alors, c'est tout l'intérêt du journaliste, c'est de penser contre soi-même et d'enquêter.
On va marquer. Moi, j'aime bien moi demander hein, sur les réseaux sociaux. J'aime bien demander. Alors, après, c'est vrai qu'il faut, faut quand même respecter le retour.
Et puis, il faut contrôler.
Et puis, il faut contrôler.
Qui vous répond.
Et évidemment.
Bien sûr.
Très intéressant pour comprendre un peu, justement, voilà, ce journalisme, ce style de journalisme, cette gauche. On marque une pause, on revient tout de suite. Plateau de Face à l'info, dans un instant on parlera avec vous, Mathieu Bocoté, de cette journaliste de Livre Noir hein, qui a infiltré des collectifs de gauche, c'est passionnant, on en parlera. Avec vous, Marc Menon, on abordera cette agression, cette barbarie, on écoutera d'ailleurs hein, le maire de Grande-Synthe, et avec vous Charlotte, on parlera du logement social. Alors Jordan Bardella, lui, souhaite réserver les HLM aux Français, un projet de loi est en cours pour les logements sociaux.
Pas pour faire ça.
Comment ?
Pas pour réserver aux Français.
Non, mais... non, pas du tout. Exactement, non, pas du tout. Et sauf si les premiers ministres, peut-être. Non. Non, pas du tout, mais on parlera effectivement de ces logements sociaux. On était avec vous, et c'est assez stupéfiant cette histoire, Guillaume Bigot, cette histoire de journaliste de Libération qui va sur les réseaux sociaux demander aux jeunes diplômés noirs, arabes, musulmans qui sont en passe de quitter la France. Pourquoi ? Et finalement, d'avoir une avalanche de réponses qui vont dans le sens inverse. Oui, on veut quitter la France à cause d'une certaine pression communautaire. Question, est-ce que cette histoire dit quelque chose du rapport d'une certaine gauche à la réalité de l'immigration ?
C'est moins qu'on puisse dire. Je pense que c'est même cette histoire, même si elle est, c'est un peu une bulle de savon virtuelle, doublement virtuelle, puisqu'il a retiré sa demande de témoignage et qu'en même temps ça se passait sur les réseaux sociaux, donc pas tout à fait dans la vraie vie. Mais je pense que ça a presque la force d'une parabole, en fait. Pourquoi ? D'abord parce que ça se passe... pour Libé, en tout cas. C'est un article qui devait être sorti dans Libé. Et Libé, c'est un organe, c'est l'organe témoin d'un état d'esprit dont il reste encore quelque chose, des traces. C'est le fameux esprit mai 68, c'est le fameux logiciel libéral-libertaire. C'est-à-dire, finalement, des gens qui ont délocalisé, qui ont jeté une grosse partie, quand même, des ouvriers et des bas salaires en France dans une situation de grande précarité, et qui ont continué presque de manière effrontée à se draper dans la gauche, le combat de la gauche. Alors comment est-ce qu'ils ont réussi ça ? C'est très simple, ils ont trouvé un prolétaire de substitution, c'est-à-dire le migrant. De même qu'il était interdit de critiquer l'ouvrier paré de toutes les vertus, il est absolument interdit pour eux de critiquer l'immigré, leur prolétaire de substitution. Et c'est très intéressant de faire ça. On comprend une espèce de cohérence dans le narratif de Libération. On va revenir aux journalistes, vous allez voir. Pourquoi ? Parce qu'en faisant ça, d'abord c'est intéressant parce qu'on évite d'entendre trop les cris des gens qu'on a mis à la porte quand on a délocalisé les usines en Chine pour s'en foutre plein les fouilles, si j'ose dire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est des racistes. Donc taisez-vous. On ne veut pas vous entendre. De toute façon, vous êtes des beaufs racistes. Donc vous avez bien cherché ce qui vous arrive, premièrement. Donc indifférent à la souffrance sociale, c'est pratique, surtout pour la bourse. Deuxième chose qui est intéressante, c'est que on peut continuer à se dire de gauche. Et troisième chose qui est importante, si l'immigré est une sorte de saint, eh bien on refuse de voir tous les effets désagréables ou les effets secondaires de l'immigration. Il est interdit de critiquer par construction l'immigré. Et donc on cache les effets secondaires de l'immigration. Or là, qu'est-ce qui se passe ? Ben, la réalité, elle explose ce narratif complètement. Au visage de ce narratif, elle explose le narratif. La semaine qui s'est passée, les deux semaines qui sont passées, l'affaire Samara, l'affaire Samseddine, ce jeune homme qui a été massacré, crime d'honneur, l'agression au couteau à Bordeaux, l'affaire même du commerçant de la boutique Géox, on s'aperçoit de quoi ? Bah, ce que les Libé racontent, c'est-à-dire que la France est pleine de beaufs, incultes, xénophobes, racistes, haineux, violents, misogynes, etc. Bah, en fait, c'est vrai. Mais ce n'est pas exactement les beaufs qu'on attendait, en fait. Ce n'est pas tout à fait les beaufs qui s'appellent Dupont-Lajoie ou la Combe-Lucien. Ni Kevin, ni Mathéo, d'ailleurs. Ils ont d'autres prénoms, ces beaufs. Mais alors, ce sont bien des beaufs. Hein. Alors, il n'y a pas de problème. Hein. Eux, ils sont très violents, ils sont très xénophobes, ils sont très misogynes, ils sont très homophobes. Voilà. Et ils sont anti-couffards, anti-français. C'est ce que j'appellerais les nouveaux beaufs. Ah, voilà. Et évidemment, là où ça devient encore plus problématique pour le récit de Libération, c'est que ces nouveaux beaufs, ils s'en prennent à qui ? Ils s'en prennent justement aux Français, en particulier aux Français issus de l'immigration, eux-mêmes qui sont leurs premières victimes. Alors c'est évidemment très gênant. Donc on comprend la panique et la démarche de ce journaliste, parce que le décor en carton-pâte de Libération tombe complètement, s'écroule. Alors il faut trouver... voilà, il lance cet appel à témoins, c'est presque un appel au secours hein, sur les réseaux. Vite, vite, donnez-moi des témoignages, qu'on puisse rafistoler le décor qui permet de faire la culbute sur la bourse. Hein. Sinon, on ne va pas y arriver, en fait, cette histoire. Voilà, donc on comprend qu'ils essayent de sauver leur narratif, en fait.
Alors tout de même, les Français issus de la diversité ne sont-ils pas réellement victimes de discrimination dans notre pays ?
Bien sûr qu'il y a des discriminations qui les visent en particulier. J'en vois au moins trois pour être honnête. D'abord, il y a cette fameuse discrimination positive. Ne croyez pas que c'est un pied de nez ou une provocation. Mais de fait, il existe une discrimination qui est au vu et au su de tous. Sciences Po, d'autres institutions publiques, des multinationales, etc. Bon, tant mieux pour ceux qui en profitent d'ailleurs. Mais ça existe. On ne peut pas le nier. Deuxième discrimination, malheureusement, elle est négative. Je pense qu'elle existe indéniablement. Discrimination, ça peut être à l'emploi, ça peut être pour louer un appartement, etc. Pourquoi ? Moi, je pense profondément que le racisme, dont il y avait encore des traces, disons, dans la nation française, il y avait encore des traces résiduelles de racisme quand j'étais enfant, ont quasiment disparu, en fait, dans le gros du corps social. Mais pourquoi il y a quand même ces discriminations ? Bah, tout simplement, d'abord parce que certains patrons, certains propriétaires ont entendu parler qu'il y avait, qu'il peut y avoir des problèmes avec des jeunes, notamment des jeunes issus de l'immigration, ce qui n'a rien de raciste de le constater. Ils ne généralisent pas. Mais la science économique nous permet de comprendre ce qui se passe. Ce qui se passe en science économique, l'économie dit... L'agent économique, il est averse au risque. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand vous avez un job à offrir, qu'il y a 10 personnes ou 15 personnes qui attendent ce job, quand vous avez un appartement à louer, qu'il y a 15 personnes qui attendent pour louer cet appartement, c'est le phénomène qu'on appelle de la file d'attente. C'est-à-dire qu'il y a une pénurie et vous opérez une discrimination, vous triez. Et comme vous êtes averse au risque, vous ne voulez prendre aucun risque. Si quelqu'un, par exemple, habite dans un quartier qui aurait pu mal famé, même si sa candidature est excellente, on ne va pas prendre de risque, on ne va même pas l'examiner et ainsi de suite. Et donc, ce n'est pas nécessairement du racisme, c'est simplement le fait qu'il y a une espèce d'aversion au risque et que malheureusement, certains donnent une mauvaise image. Et on comprend mieux la fureur que je partage complètement de ces jeunes Français issus d'immigration qui sont littéralement furieux contre ces nouveaux beaufs, contre ces racailles, contre ces islamistes, en disant « mais arrêtez votre cirque, pour notre réputation c'est terrible, nous payons les conséquences de ce que vous faites, c'est absolument terrifiant ». Et puis la troisième discrimination, je l'évoquais, elle est très importante, c'est celle que subissent des jeunes Français issus d'immigration, des jeunes femmes, des jeunes issus de la communauté LGBT, des jeunes laïcs que les islamistes appellent les apostats, ou simplement des jeunes qui veulent s'assimiler. Et là, pour le coup, ils sont de plus en plus souvent agressés par des indigénistes, par des islamistes qui les accusent d'être des koufars, d'être des traîtres, d'être des nègres de maison, que sais-je encore. Et là où c'est vraiment très ironique et vraiment insupportable, c'est que non seulement l'État vient rarement à leur secours, mais là, on a vraiment la... perdure l'esprit de la collaboration, l'esprit pétainiste dans le fait de les abandonner à leur sort. Ça, c'est très net.
Ils sont abandonnés. Pardon, je réfléchis.
Je vous en prie. Mais
je digère.
À chaque fois, il y a une pause maintenant.
Non, mais c'est... ça parle.
Non, mais c'est inacceptable de les abandonner.
Non, mais j'ai pas dit qu'on parlait, j'ai dit ça pas.
Je savais bien qu'il y avait un piège.
Non, mais c'est puissant ce que vous dites. C'est vrai, c'est puissant. C'est très, très, très intéressant. Très intéressant. Alors, merci. On continue. Marc Menon, on va parler de ce déchaînement de violence, de cette barbarie. On va écouter d'abord le maire.
Et on va voir qu'il y a une sorte de prolongation au propos de mes deux camarades.
C'est vous l'animateur ou bien...
Non, alors. Je réponds à vos questions.
Non, mais c'est vrai, tout est lié. Vous voulez qu'on regarde d'abord le sonore du maire de Grande-Synthe ? Alors, le maire de Grande-Synthe s'est exprimé cet après-midi sur CNews. Et Grande-Synthe, donc je rappelle ce qui s'est passé dans la nuit de lundi à mardi. Un jeune homme de 23 ans a été tabassé avec vraiment des coups de hache et de batte parce qu'il a refusé de donner son téléphone portable. Et c'est vraiment, vraiment une barbarie sans nom. Et le maire s'est exprimé. Écoutez quand même ces mots.
Bah, effectivement, il y a un sentiment d'insécurité qui augmente puisqu'il y a eu quelques faits ces derniers jours sur la ville de Grande-Synthe. Un sentiment de peur, d'incompréhension, mais surtout, et je remercie vraiment les Grands-Synthois, il y a aussi beaucoup de compassion, de bienveillance et d'accompagnement vis-à-vis de la famille de Philippe. Je vois des messages de la fachosphère de l'ensemble de la France qui juge Grande-Synthe, qui juge le maire de Grande-Synthe, qui juge les habitants de Grande-Synthe. Et ben, c'est pas ça Grande-Synthe, c'est une ville où il fait bon vivre, c'est une ville où on sait vivre ensemble et c'est une ville dont je suis particulièrement fier d'être maire.
Okay. Réaction.
D'accord. Bah, c'est pétain, quoi, en fait. Voilà.
Réaction.
Bah, c'est peut-être pas la journée où on peut dire que c'est une ville où il fait bon vivre.
Non, mais Grande-Synthe était connue notamment pour la jungle. Hein. Vous savez, il y avait la jungle à Calais et puis il y avait aussi à Grande-Synthe, donc il y avait des problèmes. Moi, je me mets toujours à la place de ces maires. Ils réagissent tous de la même manière. Ils ont toute une partie de leur population qui souffre de ça et qui ne supporte pas d'être amenés précisément à cette manière-là de souffrir. Je ne sais pas si je le comparerais à Pétain, là, en l'occurrence. Je pense qu'ils essaient de faire ça. C'est un aveuglement qui est dramatique, par ailleurs, pour l'avenir de sa ville. Parce qu'en effet, ce n'est pas le jour où on a envie d'entendre ça. On a envie d'entendre la colère, surtout
alors,
ce maire.
Alors, on a envie d'entendre la colère. Et Marc Menant, si vous permettez, on écoute le frère de la victime. Et ensuite, je vous laisse analyser tout ça.
Il y a encore des traces de sang, comme vous pouvez voir. Il y a encore des traces de sang ici. Et c'est là qu'on a retrouvé Philippe allongé. La tête a été redressée, les bras le long du corps, le pantalon abaissé, les chaussures enlevées. Quoi. Donc, c'est ici qu'on l'a retrouvé. Pour un téléphone, pour une sacoche. Alors que mon frère, il met pas de vêtements de luxe, il met pas de marque, il met rien. C'est débile. Vraiment, c'est débile. Et moi, comme je dis, ce que je souhaite, c'est que justice soit faite et qu'ils prennent perpète.
Alors, Marc, maintenant.
Bah, le drame intervient 48 heures après. Le drame initial où un homme a failli, dans les mêmes conditions, mourir. Heureusement, il en a réchappé. Alors, l'attitude du maire, elle correspond à quoi ? Eh bien, à cette tendance de tous les partis politiques, il faut masquer la réalité. Il ne faut surtout pas la reconnaître. Car si l'on a la franchise de dire quels sont les problèmes, comment il nous faudra les régler. Eh bien, forcément, ça pose les questions qu'ont été et que nous visitons au quotidien, je dirais, dans cette émission, et ça remet principalement en cause cet esprit communautariste qui transforme les individus en infantilisation ou en infantilisme, en victime patentée. Et ça correspond à quoi ? À tous les drames que l'on voit dans les écoles. Parce que là, on parle de Grande-Synthe. Nous allons maintenant traverser la France. On se rend à Marseille. Que s'est-il passé à Marseille ? Eh bien, un enfant ne peut pas partir dans la promenade programmée par ses professeurs parce qu'il n'y a pas eu l'attestation signée par les parents. La maman se présente et elle dit « c'est inadmissible, c'est du racisme ». C'est pas du racisme, il se trouve que si vous avez un accident, la personne qui aurait accepté que l'enfant sorte se retrouve au pénal. Vous n'avez pas le droit, si l'enfant est victime d'un accident, vous n'avez pas respecté le règlement. Les assurances ne fonctionnent pas et vous êtes donc condamnable. Et là, la maman s'énerve. Elle s'énerve au nom de quoi ? Ce n'est pas parce qu'il y a un règlement, parce que vous avez appliqué... Non, c'est parce que c'est nous. C'est parce que nous ne sommes pas respectables. Et pourquoi on n'est pas respectables ? Parce qu'on n'a pas un bon nom. Parce qu'éventuellement, on n'a pas la bonne religion. On appartient à ceux qui sont obligatoirement les détestés. Et notre société ne fait que renforcer ce sentiment-là. C'est-à-dire qu'à chaque seconde, vous avez un professeur qui se trouve victime de la maman ou du père qui arrive, ou des frères, des sœurs, car là, la maman a insulté, elle a crié au racisme, elle porte même plainte pour racisme. Mais la sœur, elle est venue et elle a frappé la directrice qui demandait simplement à la maman de se soustraire à l'établissement, de rétablir la paix scolaire. En essayant de dire, bah, essayez de réfléchir à ce que l'on vous a donné comme argument pour justifier la situation. Mais une autre fois, c'est l'élève qui n'aura pas de bonne note. Pourquoi il n'a pas eu de bonne note ? Bah parce que il n'est pas blanc. Pourquoi il a été mis à la porte où il a eu une réflexion ? Bah parce que
quand on le demande à ne pas assister à un cours de sciences naturelles où on parle de choses de la nature qui sont intolérables pour notre foi, eh bien, comment se fait-il qu'on n'en tienne pas compte de cela ? Ça signifie quoi ? Eh bien, dans les médias, les politiques, tout le monde, au quotidien, dit « il est vrai ». Qu'il y a toute une population qui aujourd'hui n'est pas prise en considération dans son identité. On oublie que nous sommes tous des citoyens. Non, c'est l'identité qui doit l'emporter. Et si cette identité, elle n'est pas respectée dans sa vivacité, vous êtes donc une victime, voire un martyr. Et si vous êtes un martyr, il y a un moment où vous tombez dans la haine. Ce sont les propos haineux que notre ami Bigot tout à l'heure mettait en scène. On pourrait reprendre également les termes utilisés par Mathieu dans sa chronique. On s'aperçoit qu'au quotidien, dans tous les rouages de la société, les uns et les autres se trouvent en dehors de ce que l'on doit exiger de toute personne, de tout citoyen. Comment je m'intègre à la société ? Quel effort je dois faire pour être digne d'appartenir, non pas à ma communauté, appartenir à la communauté nationale ? Et c'est ça qui est dramatique dans le propos du maire, c'est ça qui est dramatique dans tout ce que l'on entend dans les médias mainstream. À chaque seconde, on fait croire aux gens qu'ils ne sont pas respectés de par leur origine, de par leur confession, et que ça c'est exécrable et que la société est en dérive. Résultat, la haine ne cesse de germer, les communautés ne cessent de se multiplier et les dissensions sont sous l'aiguillon. Par conséquent, nous avons partout des crimes qui sont perpétrés dans la barbarie la plus totale, dans une sorte de légitimité. Vous vous rendez compte de ce que nous avons à subir ? Eh bien, à un moment donné, ça nous est insupportable et par conséquent, eh bien, on ne s'appartient plus. Il nous faut réagir. Voilà le drame de ce monde, de ce drame où on favorise le communautarisme et où, pardon Charlotte, pardon Mathieu, moins pardon à Guillaume, la laïcité est piétinée. La laïcité n'est pas respectée. C'est elle qui, théoriquement, nous permet de prendre conscience que nous sommes des citoyens, que nous avons un devoir vis-à-vis de la patrie et vis-à-vis de la France, une fierté d'y appartenir.
Le statut de victime qui empêche le sens de la responsabilité.
Bien évidemment. Vous êtes infantilisé. C'est jamais de votre faute.
Merci. Quelqu'un veut réagir ? Non ? Merci. OK. Non, merci. Très, très intéressant. Je trouve, moi, que le statut de victime, il est même plus fort, peut-être même, que cette histoire de laïcité, non ?
Bah, oui, non, mais c'est non. Ça, c'est ce que ça favorise.
Non, mais parce que... Non, vous n'êtes pas d'accord avec moi, Charles ?
Ah, si, mais non, mais d'autant que la laïcité... à Grand-Synthe ou sur le terrain du racisme
Oui. Non, c'est parce que la laïcité, théoriquement, ça empêche ça. Ça met chacun dans la situation de devoir être un citoyen.
C'est une laïcité en kit, c'est-à-dire c'est la laïcité sans la France, comme c'est la République sans la France.
Oui, mais donc c'est plus la laïcité. En fait. Il n'y a plus de laïcité en tant que telle. Voilà.
En tout cas, c'est incroyable ce déchaînement de violence. Tous les jours, lorsqu'on discute des sujets, on se dit, est-ce qu'on en parle, est-ce qu'on n'en parle pas ? Enfin, on ne sait plus comment aborder ces sujets tellement ils sont...
D'ailleurs, on sent aussi cette impuissance absolue et cette crainte, en fait, dans les propos du maire.
Oui.
Parce que s'il dit le jour où quelqu'un se fait massacrer dans sa commune, et par ailleurs, j'évoquais tout à l'heure la jungle, il y a eu des règlements de compte avec des armes à feu à l'intérieur, etc. Donc, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Et si le jour où il y a un truc aussi choquant... Qui devrait prendre toute la place dans la tête du maire, si ce jour-là, il se sent obligé d'expliquer que par ailleurs, ça se passe bien la plupart du temps, c'est qu'on a un énorme problème en plus du fait qu'il s'est passé ce jour-là. C'est qu'il est impossible de le voir par peur de ce que signifie de le voir seulement et de le dire.
Il rafistole le décor, là. Il rafistole le décor.
C'est ça.
Et plus encore, en dernière instance, écoutant le maire, c'est que le vrai problème, c'est le sentiment d'insécurité entretenu par la fachosphère. Donc le vrai problème, c'était pas le massacre, c'était la fachosphère.
Inversion accusatoire.
Voilà, et on revient constamment à ce système qui vous aspire.
Très pervers.
Et voilà, c'est la perversion la plus totale et qui est entretenue par tous les acteurs actifs de notre société. Voilà.
Merci beaucoup, mon cher Marc. Tout autre chose, Charlotte Dornelas, le texte qui doit être présenté en Conseil des ministres début mai sur le logement prévoit notamment que des locataires du parc social les plus aisés devront quitter leur logement dès que leurs ressources dépassent 120% des plafonds réglementaires. Le gouvernement veut serrer la vis, mais il veut serrer la vis dans quel sens? Comment, concrètement, qu'est-ce qui nous attend?
Alors, vous avez raison, le message global, en tout cas de ce qu'on sait pour l'instant de ce projet de loi, il devrait être présenté le 7 mai, donc on en saura plus à ce moment-là. Mais en gros, il veut abaisser les seuils à partir desquels les locataires HLM doivent payer un surloyer. Bon, on en avait déjà parlé, Dimitri nous en avait parlé notamment. Vous êtes dans un logement HLM, il y a des seuils, des plafonds à partir desquels vous êtes éligible au logement HLM. Et si vous gagnez plus que ces plafonds, parfois on vous fait payer un loyer plus cher parce que les loyers en HLM sont évidemment très inférieurs à ceux du marché. Et même dans le message, on va dire, qui a été passé, ou même être expulsé du logement social pour des raisons notamment financières quand vous gagnez plus d'argent que ce qu'il ne faut pour être éligible. Bon, alors, c'est encore un sujet où vous commencez à bosser et vous vous dites « Quoi ?» C'est-à-dire que ça n'est pas déjà le cas. Mais vraiment, vous savez, il y a beaucoup de sujets comme ça. Vous bossez dessus et vous vous dites « Ah, ils vont changer ça parce que c'était pas comme ça. » Mais vraiment, je le dis comme ça parce que ça m'arrive de plus en plus souvent. Alors, le constat est double. D'abord, il y a 2 millions de demandes par an d'accession au logement social et 450 000 attributions, notamment parce qu'il y a beaucoup de constructions. C'est pas parce qu'il y a un roulement, c'est parce qu'il y a beaucoup de constructions de logements sociaux. Il y a donc une surpopulation et même une surpopulation en puissance de ces logements sociaux. Un taux de roulement inexistant, vous avez 5% de personnes qui partent chaque année des logements sociaux. Donc vous avez une vocation première des logements sociaux qui n'est plus du tout respectée, puisque initialement c'était vu comme des logements de transition, un accompagnement vers la propriété et donc temporaire. On voit que ça n'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, alors concrètement, quelles sont les annonces du gouvernement, en tout cas de ce qu'on sait aujourd'hui? Par exemple, aujourd'hui, il y a donc un plafond de ressources qui vous donne droit d'accès au HLM. Le loyer est majoré à partir du moment où vos ressources, donc ce plafond, dépasse de 20% celui qui est nécessaire pour accéder au logement social. Là, le gouvernement explique qu'il voudrait supprimer ça et qu'il y a un surloyer immédiat à partir du moment où vous gagnez plus que ce plafond-là. Ensuite, aujourd'hui, on peut expulser du logement social, c'est-à-dire faire partir un expulsé, ça a l'air horrible. C'est juste dire, vous gagnez plus d'argent que ce qu'il faut pour être dans un logement social, vous allez donc vous diriger vers le parc privé, par exemple. C'est pas non plus monstrueux. Et là, aujourd'hui, on peut donc expulser quelqu'un d'un logement social s'il dépasse 2 années de suite de 50% le plafond. Et là, le gouvernement nous dit qu'ils veulent baisser ce seuil à 20%. Mais on garde encore des gens pendant des années qui ont donc beaucoup plus d'argent que ce qu'il ne faut pour accéder au logement social. Ensuite, les bailleurs pourraient mettre fin au bail si les locataires... Non, mais écoutez bien. Si les locataires sont propriétaires d'un logement correspondant à leurs besoins, par ailleurs, donc ils sont en logement social, s'ils ont un logement qui correspond à leurs besoins, on va leur dire « vous êtes gentils ». Il va falloir partir, ou pouvant apporter les ressources suffisantes pour se loger dans le parc privé. Donc ça, aujourd'hui, ça n'est pas examiné. Ce qui est vrai, notamment à l'étranger. Et Michel Auboin, on avait parlé de son rapport, il examine notamment des gens qui sont aujourd'hui dans les logements sociaux et qui ont une propriété dans un autre pays. Ah oui, il y a un moment, il va falloir choisir quand même. Bon. Et par ailleurs, dans cette loi...
Mathieu, restez avec nous.
Voilà. Mais souvent, Mathieu fait cette tête à la fin, parce qu'il vit, quand je fais ma chronique, ce que j'ai vécu dans l'après-midi, donc ça me fait plaisir. Et il y a la création, par ailleurs, de logements intermédiaires, donc là, avec des plafonds de ressources et des loyers plus élevés, donc pour les populations qui sont entre, on va dire, le HLM et l'accession à la propriété, avec le risque qu'il se passe exactement la même chose que ce qui s'est passé sur les HLM. Et par ailleurs, il y a une volonté d'une marge de manœuvre accrue pour les maires dans la distribution des logements sociaux. Alors là, je ne sais pas du tout comment ça va se passer, parce que l'État a toujours été très craintif sur cette question, notamment en évoquant un risque de clientélisme qui existe très largement dans ceux qui aujourd'hui distribuent les logements sociaux. Donc bon, est-ce que le maire n'aurait pas besoin, par ailleurs, de maîtriser un peu la population qu'il a sur sa commune? La question est en tout cas ouverte, on verra ce que ça donne dans le projet.
récemment. Plusieurs personnes ont réagi. Jordan Bardella veut les réserver aux Français. David Amiel veut les réserver aux fonctionnaires. Que penser de ces propositions ?
Ben, on voit dans les propositions qui émergent que, d'abord, un, il faut vraiment que le HLM ait perdu sa fonction première pour que politiquement ça devienne un sujet que d'imaginer à quoi il pourrait servir. Et que initialement, le HLM, c'est vraiment un logement. L'État aide des personnes aux ressources insuffisantes en leur disant c'est un accompagnement. On va alléger le poids du logement dans vos finances, en gros, pour vous accompagner vers la propriété. Bon, finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fleuri absolument partout et que c'est devenu un mode de logement, parfois à vie. Et donc, ça n'a plus du tout la vocation première. Par ailleurs, on voit que dans l'histoire, ça c'était la vocation première. Ensuite, le regroupement familial a favorisé ce changement, on va dire, de vocation du logement social, parce qu'il y a énormément de familles qui sont arrivées dans les années 75, 76 et qui ont suivi, notamment du Maghreb. Beaucoup de familles qui ont été accueillies dans les logements sociaux. Et là, pareil, ça devait être temporaire. Ce qui s'est passé, c'est qu'au lieu d'avoir un passage temporaire des familles dans ces logements, on a multiplié la création de logements sociaux en créant en parallèle un droit illimité à rester dans ces logements sociaux. Résultat, aujourd'hui, on en a partout. Les maires nous disent on ne sait même plus où les construire. Souvenez-vous que Xavier Melki, qu'on avait évoqué la dernière fois, il explique que lui, il ne peut même pas faire le nombre de logements sociaux que l'État lui demande parce qu'il ne trouve pas le terrain, en fait, sur sa commune. Donc, pour certains maires, c'est ça le problème. Et aujourd'hui, nous avons, je rappelle ce chiffre, un quart en France, un quart des logements sociaux qui existent en Europe. Donc je ne compare pas la France à un pays au fin fond du monde. Je vous dis, en Europe, la pratique n'est pas du tout comparable à ce qui se fait en France. Et le système est vicié depuis le départ. Dans ce rapport dont on avait déjà parlé, Michel Auboin explique qu'immédiatement, il y a eu, je le cite, un droit illimité à demeurer en HLM, qui donc cassait initialement la vocation même de ces logements sociaux, et par ailleurs, qui est prouvé, là en l'occurrence, par ces réformes du gouvernement. Quand vous voyez ce sur quoi ils veulent changer les curseurs, c'est qu'en effet, il y a un droit de fait, en tout cas, à rester de manière illimitée. Ce qui est bon pour personne, hein, par ailleurs. On y reviendra. Et en plus, comme les loyers sont en dessous du marché et qu'on a un marché qui est par ailleurs inaccessible, c'est l'autre problème, évidemment, du logement social, on a des personnes plutôt âgées. L'âge moyen, c'est 50 ans aujourd'hui. Alors qu'initialement, le HLM, on se dit, c'est plutôt jeune, précisément, pour accompagner dans la vie. Et on a un taux de départ de 5% seulement, je le disais tout à l'heure. Donc, les fonctionnaires n'ont finalement... On comprend très bien ce qui pousse à ces propositions, mais les fonctionnaires n'ont pas plus vocation à demeurer que les autres. C'est-à-dire, je vais le dire différemment, ils n'ont pas moins vocation que les autres Français à être propriétaires un jour en France. C'est surtout comme ça qu'il faut le voir. Quant à l'immigration, effectivement, elle joue un rôle. Un seul chiffre, on a construit 600 000 places l'année dernière et on a accueilli 400 000 personnes. Sans compter l'hébergement d'urgence qui là concerne toutes les personnes, qu'elles soient en situation régulière ou irrégulière. C'est une question qui s'est posée ce matin dans l'évacuation du squat. Pourquoi ? Les associations nous disent, parce qu'elles seules communiquent en l'occurrence sur le statut, que 80% des personnes qui étaient dans le squat étaient en situation régulière, que certaines étaient en attente d'un logement social. Donc vous avez des Français aujourd'hui qui n'arrivent pas à se loger. Vous avez des étrangers en situation régulière qui n'arrivent pas à se loger. Vous avez des personnes en situation irrégulière qui n'arrivent pas à se loger parce que l'hébergement d'urgence. Et on vous dit, oui mais l'accueil est un principe. Moi je dis, c'est de la folie. C'est de la folie en fait, tout simplement. C'est même pas une question de personne, de rapport aux autres. C'est juste, on n'y arrive pas. Donc on fait comment à partir du moment où on n'y arrive pas à se loger ? Comment vous faites pour vivre derrière si vous n'arrivez pas déjà à vous loger? Quand la question se pose déjà pour une part significative des Français, c'est de l'irresponsabilité que de se poser la question de l'accueil d'autres étrangers. C'est aussi simple que ça sur le terrain seul du logement.
Certains pointent également, Charlotte Dornelas, le sujet de la délinquance. Et Michel Auboin, qui avait fait un rapport, vous l'avez cité, hein, sur ce sujet, lit les deux sujets. Cela semble quand même un peu osé ou pas ?
Ça semble osé parce que le logement seul n'explique évidemment rien. C'est pas la question juste du HLM qui explique la délinquance. On en parle suffisamment souvent pour savoir que c'est évidemment multicausal. Mais sa démonstration dans son rapport est assez convaincante pour plusieurs raisons. Un, il explique que être propriétaire ou connaître son propriétaire, ce qui n'est pas le cas dans un HLM. Vous n'avez pas un propriétaire à qui vous rendez des comptes, qui vient vous demander pourquoi la porte est cassée, pourquoi les boîtes aux lettres ceci, pourquoi il y a le feu qui a été mis au hall ou pourquoi il y a des squatteurs en bas, par exemple. D'autant que la question des concierges, notamment dans les HLM, pour des raisons parfois financière, parfois de sécurité, parfois de pression, notamment sur les trafics de drogue, n'existe plus. Donc il n'y a plus aucun lien dans ces HLM. Donc devenir propriétaire ou connaître son propriétaire, c'est être soit soi-même propriétaire d'un petit bout de France. Il prend cette expression-là. Et donc il dit ça vous attache évidemment au pays dans lequel vous vivez, soit être co-responsable de l'endroit dans lequel vous vivez. Vous n'en avez pas juste le fruit, vous êtes aussi responsable. Donc là, vous détruisez le lien à cette responsabilité. Ensuite, il souligne le paradoxe qu'il y a à construire des logements sociaux, ce qui est extrêmement coûteux, de continuer à en construire et de ne pas développer avec le lien précisément avec le reste de la société. On a voulu des logements sociaux à l'extérieur des villes notamment. Et là, il explique que l'identification au fil des années s'est faite au quartier plutôt qu'au pays. Et là, on retrouve les guerres de territoire, etc. Donc, je vous le fais vite, hein, mais c'est assez intéressant. Et il explique, et là c'est un constat, il dit les 1500 quartiers prioritaires de la ville correspondent très largement aux zones de sécurité prioritaires dans lesquelles vivent aujourd'hui accessoirement 8 millions de personnes. Et il dit, ce sont les mêmes. On a bien une question à se poser, évidemment. Et lui accuse directement ce modèle-là. Et par ailleurs, il demeure impossible de se poser des questions simples pour des raisons idéologiques. Vous avez en tête la question logement collectif, mixité sociale, qui n'est plus sociale, hein, c'est plus tellement le sujet. La question de l'accueil, je vous disais, qui reste un principe, peu importe les circonstances, ce qui est évidemment de l'imprudence. Le tout entre les mains d'un écosystème qui, par ailleurs, profite financièrement aussi de l'exploitation de ces logements sociaux. Et lui préconise deux choses majeures en deux mots. Un, rendre aux maires la maîtrise de la population de ces HLM, parce que les maires doivent les construire, sont responsables de la sécurité, de la tranquillité et de l'accompagnement social, sans pouvoir avoir leur mot à dire sur les populations qui habitent dans ces logements. C'est difficile à suivre. La deuxième chose, l'instauration d'un bail qui permet le réexamen de la situation des personnes qui sont dans un HLM. Tous ceux qui sont dans le parc privé se demandent même comment c'est possible que ça n'existe pas. Tout simplement.
Excellente analyse. Oh là là, quelle belle émission ce soir. Non, vraiment, très intéressant. Mathieu Mocoté, la chair à canon de l'humanitarisme, on va en parler. Le dernier numéro de Livre Noir fait parler. On y trouve de nombreuses enquêtes de la part d'une journaliste ayant infiltré l'extrême gauche. Elle a notamment infiltré une association de défense des sans-papiers. Et ce qu'elle nous apprend a quelque chose de fascinant, c'est l'objet de votre édito. Dites-nous tout.
Alors franchement, c'est passionnant ce numéro parce que ces groupes-là, les associations de défense des droits d'eux, on a normalement le récit médiatique tout à fait favorable. Hein, quel genre remarquable au service de l'humanisme. Or, elle pénètre ces organisations et les infiltre. Et là, elle expose de l'intérieur comment ils fonctionnent. Et notamment, donc, c'est Pauline Condomine, son nom, j'espère ne pas le massacrer. Et elle infiltre notamment dans le 20e arrondissement une association de défense des migrants, de tous les migrants, qui dispose d'argent public. C'est pas un détail, hein. Votre argent, mon argent, l'argent de Charlotte, de Marc, de Guillaume, notre argent sert à financer cette association. Dans cette association, il y a beaucoup de demandes, évidemment, beaucoup de migrants qui se présentent pour, on a besoin d'aide, pourriez-vous nous aider? L'association a une capacité d'en aider un certain nombre, mais pas tous. Comment sélectionner ceux qui seront aidés? Un fichier mis en place pour transformer les migrants qui ont besoin d'aide en militants pour la cause. Et en gros, si vous acceptez d'aller faire du militantisme, donc participer à telle manifestation, participer à tel événement, participer à telle soirée qui permet de faire de l'action politique, de l'activisme politique au service de l'association, alors on favorisera votre dossier pour le faire avancer dans les rapports avec les autorités. Donc globalement, c'est une espèce d'échange un peu étrange, presque cynique, en disant « on va vous aider à condition que vous nous serviez, que vous... » C'est une forme de tri militant qui s'opère. Hein. C'est une forme de préférence militante qui est exercée dans les circonstances. Ils sont fichés. Je prends la peine de le dire. Pour regarder la vidéo qu'elle a publiée, ils sont fichés. Donc, et c'est de manière très précise. Hein. Donc, on sait exactement qui, de quelle manière, à quel moment, dans quelles conditions a servi ou n'a pas servi. Ensuite, on peut les conscrire dans les manifestations, on peut les conscrire contre des lois, par exemple, la loi immigration, contre des partis, contre des revues, et ainsi de suite. Donc, ils servent de chair à canon des associations d'extrême-gauche. Alors, derrière le spontanisme révolutionnaire, derrière le spontanisme militant dont on nous parle si souvent, nous sommes ici, en fait, par la prise en charge d'associations qui sont dans une logique de lutte contre l'État, très souvent, avec l'argent de l'État et qui mobilise les populations étrangères pour être capable, à la manière de supplétif, hein, c'est le nouveau visage des troupes coloniales utilisées par l'extrême-gauche, pour être capable de fragiliser l'État français.
Mais la vraie question à Mathieu n'était pas celle du financement de ces associations.
Et c'est la plus importante, c'est au cœur de ce travail d'enquête. Hein. On comprend donc, de quoi parle-t-on ici. Premièrement, du financement public. Il y a de l'argent public qui est mis là-dedans. C'est important de savoir. Donc, c'est l'État finance des associations qui travaillent à déconstruire le pouvoir de l'État. Théoriquement, on pourrait dire qu'on est chez les fous. Y a-t-il aussi, et là c'est suggéré, du financement étranger, parce qu'il y a du financement privé là-dedans, d'associations étrangères. Est-ce qu'on peut dire que de ce point de vue, les militants, je ne parle pas des migrants ici, qui franchement sont la chair à canon de ces gens d'extrême-gauche, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont des agents de l'étranger? Je parle ici des militants qui prennent de l'argent étranger pour être capables de mener un travail qui consiste à déconstruire quelquefois des lois françaises. Donc certains se diront, est-ce qu'on devrait obliger toutes ces associations humanitaires à pratiquer la transparence la plus totale, pour savoir comment ils fonctionnent exactement, parce qu'il y a beaucoup de brouillard, et surtout, il faut explorer, je pense que c'est la chose essentielle, ce sera ma conclusion, le dispositif de pouvoir qui s'est mis en place entre ces associations, qui ont accès quelquefois à des préfectures, soit dit en passant, il y a des accords qui sont faits avec des préfectures, des accords qui sont faits avec une partie de l'État, avec des juristes, autrement dit, qui retournent l'État contre la nation, qui mobilisent l'État contre la nation, qui mobilisent l'argent des Français contre les Français. C'est une enquête assez intéressante, elle mérite qu'on s'y attarde.
Livre noir. Merci beaucoup Mathieu, Guillaume, Charlotte, Marc. L'heure des Pro 2. Excellente soirée sur CNews.